Charles Drelincourt, La brièveté de la vie, sermon sur le psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur de sagesse. Mes frères, en tous les écrits des anciens païens, et particulièrement en ceux des philosophes les plus célèbres, il n'y a rien de plus beau ni de plus fleuri que les discours qu'ils font sur la brièveté de la vie et sur la nécessité inévitable de la mort. Mais comme ils ont ignoré la vraie cause de la mort et qu'ils n'ont pas su ce que l'apôtre nous enseigne, que par un homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et ainsi que la mort est parvenue à tous les hommes parce qu'ils ont tous péché, ils ont aussi ignoré les véritables remèdes contre les frayeurs de la mort, et c'est ce qui leur a fait dire que, de toutes les choses terribles, la mort est la plus épouvantable. De même, ils n'ont pas reconnu d'où procède la brièveté de la vie et les misères qui l'accompagnent. Ils ne nous ont point appris de quelle façon nous devons méditer ces choses et le profit que nous en devons tirer. Toutes leurs subtilités ont été autant de traits tirés en l'air sans viser à aucun but, et toutes leurs belles fleurs n'ont produit aucun fruit. En un mot, ils sont devenus vains dans leurs discours, et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Ils ont laissé leurs disciples dans le chemin de la mort et de la damnation éternelle, et les ont abandonnés au désespoir. Mais la parole de Dieu ne nous entretient pas seulement de la nécessité de mourir, elle ne nous donne de véritables et solides consolations contre la mort et nous apprend le moyen infaillible d'en remporter une victoire glorieuse. De même, elle ne se contente pas de nous représenter la brièveté de notre vie et toutes les misères à quoi elle est sujette, mais elle nous en découvre la cause et l'origine et nous enseigne à méditer ces choses à la gloire de Dieu et au salut de nos âmes. C'est particulièrement ce que vous pouvez remarquer en ce divin cantique que vous chantez aujourd'hui. Cantique qui a été inspiré d'en haut et qui a été mis en lumière pour servir à l'Église de Dieu jusqu'à la fin du monde. Celui que le Saint-Esprit a employé pour faire cet admirable ouvrage, c'est Moïse, ce grand prophète qui, durant les jours de sa chair, a eu l'honneur de parler familièrement avec Dieu comme l'ami avec son ami, et qui, après un entretien de 40 jours et de 40 nuits, eut le visage tout rayonnant de lumière. Sous ombre que dans les 5 livres de Moïse, il n'est point fait mention de ce cantique, saint Augustin a révoqué en doute qu'il fût véritablement de Moïse. Mais je m'étonne qu'un si grand homme ait pu douter d'une vérité si manifeste et qui se défend d'elle-même. Car se peut-il rien désirer de plus affirmatif ni de plus convaincant que le titre de ce cantique qui est conçu en ces mots « Requête de Moïse, homme de Dieu ». C'est ainsi que Moïse est souvent qualifié par excellence l'homme de Dieu et le serviteur fidèle en toute la maison de Dieu. Cet homme de Dieu étant dans le désert au milieu des morts et voyant tous les jours mourir l'une après l'autre toutes les personnes qu'il avait retirées d'Égypte, il en fut touché au vif, et c'est ce qui l'obligea à méditer sur la brièveté et sur l'inconstance de la vie de l'homme et à en composer ce cantique. Il nous la représente par les plus belles et les plus riches figures qui se peuvent imaginer sur ce sujet. Et même il nous met devant les yeux comme un abrégé de tout ce qu'il y a de plus rare dans les écrits des auteurs sacrés et des auteurs profanes. Il en parle comme d'une chose de néant qui est emportée par un torrent d'eau, comme d'une fleur que l'on voit flétrir dès qu'elle est épanouie, et comme d'une herbe qui verdit le matin, que l'on fauche le soir et qui se fane. Il la dépeint comme un songe qui passe et dont les fausses images s'évanouissent. Il dit qu'elle s'envole comme la parole en l'air et qu'elle se consume comme une pensée. Après cela, il n'y a rien à dire. Quelque rapide que soit la parole, il faut quelques moments pour la prononcer et pour la faire résonner dans l'air. mais une pensée naît et expire en un instant. Il ne se contente pas de cela. Il remonte jusqu'à la source et à la véritable cause de la brièveté de notre vie et de toutes les misères qui l'accompagnent. Il nous fait voir que c'est Dieu lui-même qui exécute l'arrêt qu'il a prononcé au paradis terrestre lorsqu'il dit à Adam « Tu es poudre et tu retourneras en poudre », car lorsqu'il dit à Dieu « Tu réduis l'homme mortel jusqu'à être pulvérisé » et dit « Fils des hommes, retournez », c'est comme s'il disait « C'est ta parole, Seigneur, qui a fait l'homme, et c'est ta parole et ton commandement qui le défait, car il ne peut résister à cette voix. Homme mortel, retournez en la poudre d'où vous avez été tiré et dont votre corps est composé. » Que si vous voulez savoir la cause et le fondement de cet arrêt, et pourquoi Dieu veut que ce vaisseau de terre soit brisé et réduit en une menue poussière, c'est parce qu'il a été souillé par le péché et que nous le souillons tous les jours par la multitude de nos iniquités. Tu as mis devant toi nos iniquités et devant la clarté de ta face nos fautes cachées, de sorte qu'il en est comme de la maison infectée d'une lèpre rongeante qui devait être démolie et la poudre jetée au vent. Enfin, le prophète nous apprend le profit que nous devons tirer de la brièveté de notre vie et de son inconstance. C'est d'avoir recours à Dieu et de lui faire cette admirable prière « Enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur de sagesse. » En ce premier jour de l'année, nous avons cru ne pouvoir rien choisir de plus convenable pour cet exercice sacré que ces divines paroles, où nous aurons, avec l'assistance du ciel, à considérer ces deux points, autant que la brièveté du temps et la rigueur de la saison le pourra permettre. Premièrement, la prière en elle-même, enseigne-nous à compter nos jours. Secondement, de quelle façon nous les devons compter et pourquoi il nous faut apprendre à faire ce calcul. Enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur de sagesse. Quelqu'un se pourra étonner que Moïse nous oblige à demander à Dieu qu'il nous enseigne à compter nos jours. Vu ce qu'il dit au verset 10, « Les jours de nos années reviennent à 70 ans, et s'il y en a de plus vigoureux, à 80 ans. Car qui est-ce qui ne peut compter jusqu'à 70 ou 80, et même beaucoup au-delà ? » Cependant, en comptant nos jours et nos années, nous nous abusons grandement, soit au regard du passé, soit au regard du présent, soit au regard de l'avenir. Je dis premièrement que nous nous abusons au regard du passé, car il y en a fort peu qui comptent, comme Jacob, les jours des années de leur pèlerinage. Mais les uns disent qu'ils ont 20 ans, les autres qu'ils en ont 30, et les autres qu'ils en ont 40, 50, 60, 70, 80 ou 90. Mais mon frère, où sont ces 80 ou ces 90 ans dont vous vous vantez? Oui, où sont-ils? Je vous le demande encore une fois. En quel trésor les avez-vous mis? Où les avez-vous cachés? Et pourriez-vous bien me les faire voir? Vos jours se sont évanouis, et vos ans se sont envolés l'un après l'autre, et n'ont laissé aucune trace, non plus que l'aigle qui vole après la proie. Le vieillard qui est venu au monde il y a 90 ans ou 100 ans n'a non plus du temps passé que l'enfant qui vient de naître. Secondement, nous nous abusons aussi toutes les fois que nous parlons du temps présent, car nous en faisons notre compte comme d'une longue durée et comme de beaucoup de jours et d'années que nous faisons état d'employer à ceci ou à cela. Cependant, nous n'avons qu'un moment qui s'envole et qui s'évanouit en le nommant, et plus vite encore que nous ne le serions nommés. Mais notre plus grande erreur est au calcul que nous faisons de l'avenir. Car bien que nous voyons tous les jours mourir des personnes de tout âge et de toutes conditions, parce qu'il y en a qui vivent des 80 et des 90 ans, nous faisons notre compte que nous vivrons bien autant et peut-être au-delà. Il a été fort bien dit par un ancien orateur romain, Cicéron, qu'il n'y a point de vieillard si décrépit qui ne croit qu'il en a encore pour le moins un an à vivre. Et au bout de cette année, Il croit qu'il en vivra bien encore une autre, et cela va jusqu'à l'infini. Enfin, encore que de bouche nous confessions que nous sommes mortels et que nous disions tous qu'il nous faut mourir comme les autres hommes, néanmoins, il y a enraciné en nos esprits je ne sais quelle fausse opinion d'immortalité. Nous vivons comme si nous avions traité accord avec la mort et que nous ne dussions jamais mourir. L'ancien serpent nous a presque tous infectés de ce venin dont il endormit nos premiers parents. Vous ne mourrez nullement. Vous voyez donc bien, âme chrétienne, que lorsque Moïse dit ici « Enseigne-nous à compter nos jours », il ne veut pas que nous demandions à Dieu la faculté de les pouvoir compter à la mode des mathématiciens et que cela, à parler proprement, ne signifie autre chose sinon qu'il plaise à Dieu nous faire la grâce de bien reconnaître la brièveté et la vanité de votre vie. C'est pourquoi le poète qui a mis en vers ce divin cantique a fort bien saisi le sens, à mon avis, lorsqu'il a traduit « Apprends-nous à comprendre combien est court le cours de notre vie ». Le roi prophète fait une semblable prière au psaume 39. « Donne-moi à connaître ma fin et quelle est la durée de mes jours, que je sache de combien petite durée je suis. » Il ajoute « Tu as mesuré mes jours à la mesure de 4 doigts. » Remarquez, je vous prie, qu'il ne dit pas « Tu as mesuré mes jours à l'aune ou à la toise », mais pour nous en faire voir la brièveté, il dit « Tu les as mesurés à la mesure de 4 doigts. » Moïse nous a dit ci-dessus que la vie ordinaire des hommes est de 70 ans, ou de 80, pour ceux qui ont le plus de force et de vigueur. Mais à peine s'en trouve-t-il un entre 1000 qui parvienne à cet âge-là. Et quand il y parviendrait, il y a des arbres comme les chênes et les cèdres qui vivent 2 fois ou 3 fois autant. Lorsque le patriarche Jacob se présenta devant Pharaon, ce prince lui demanda « Quel âge as-tu ? » Et Jacob lui répondit « Les jours des années de mes pèlerinages sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais, et n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères du temps de leur pèlerinage. Il avait vécu 130 ans, et vécu encore après 17 ans, de sorte que c'est en tout 147 ans. Cependant, il a raison de dire que ses jours ont été courts, et qu'ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de ses pères. Car, enfin, je ne parle point d'Abraham, qui a vécu 175 ans, et d'Isaac, qui en a vécu 180, Jacob avait peu vécu auprès des anciens patriarches, dont les uns ont vécu des 700 ans, les autres des 800, des 900 ans, et quelques-uns même ont vécu près de 1000 ans, comme Mathusalem, dont la vie a été de 969 ans. Mais qu'est-ce que tout cela au regard de la vie des anges, qui sont des esprits mortels, qui ont eu commencement mais qui n'auront jamais de fin, et dont le bienheureux être, depuis le premier moment de leur création jusque dans l'éternité, n'a jamais eu et n'aura jamais de changement. Mais surtout, qu'est-ce que de notre vie, comparée à celle de Dieu, qui est avant que les montagnes fussent nées, et avant la terre dont les montagnes ont été formées, au regard duquel le temps passé, le futur et le présent sont une même chose. C'est celui qui est, qui était et qui est à venir. Et c'est pourquoi, en parlant à Moïse du milieu de la flamme du buisson d'Horeb, il dit « Je suis celui qui suis », c'est-à-dire « Je suis celui dont l'être est permanent et par-devers lequel il n'y a point de variation ni d'ombrage de changement. Je suis l'Éternel et je n'ai point changé et ne changerai jamais. » C'est pourquoi l'auteur du psaume 102 lui adresse ces belles paroles « Mon Dieu fort, tes ans durent d'âge en âge. Tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu seras permanent, et eux tous vieilliront comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu es toujours le même, et tes ans ne seront jamais achevés. » S'il se rencontrait un homme sur la terre qui eût vécu 31 ans de plus que Mathusalem, c'est-à-dire qui fût parvenu jusqu'à l'âge de 1000 ans accompli, On regarderait cela comme un prodige et comme une espèce d'éternité. Cependant, Moïse nous enseigne que 1000 ans devant Dieu sont comme un jour et comme une veille de la nuit. C'est-à-dire que c'est comme l'espace de 3 heures. Car les Orientaux divisaient le jour en 12 heures et la nuit en 4 veilles, dont chaque veille était de 3 heures. Mais lorsque le roi prophète compare sa vie avec celle de Dieu, il ne trouve pas que c'est un jour ni une veille de la nuit, mais il dit que ce n'est rien du tout. Tu as mesuré mes jours à la mesure de 4 doigts, et le temps de ma vie est comme un rien devant toi. Mais quel est le but de cette méditation? Et pourquoi faut-il que nous comptions nos jours avec tant de soin et que nous ayons toujours devant nos yeux la brièveté et les misères de notre vie? Est-ce afin que nous en fassions de beaux discours ou des railleries profanes? Est-ce afin que nous imitions les stoïques et que nous apprenions à regarder d'un œil indifférent tout ce qui arrive au monde de prospérité ou d'adversité, d'être aussi constant dans un brasier ardent que sur un lit de rose et de mépriser également la vie et la mort? Ou bien est-ce afin qu'avec les impies et les athées, nous disions « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Dieu nous garde, mes frères, d'avoir des pensées si folles et si infernales. Il faut plutôt que la brièveté de cette vie nous fasse penser à l'éternité et que le temps qui s'écoule insensiblement nous rende plus que vainqueurs de tous les siècles. C'est le but de notre prophète et il s'en explique assez clairement lorsqu'il nous apprend à dire à Dieu « Enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur de sagesse. » La sagesse dont il parle n'est point la sagesse du monde, ni la prudence des enfants de ce siècle qui s'en va à néant ou qui dégénère en folie, mais c'est la véritable sagesse dont le sage nous parle en plusieurs endroits de ses proverbes, et particulièrement au chapitre 3. La principale chose, c'est la sagesse. Acquiert la sagesse et sur toute acquisition, acquiert la prudence. C'est cette sagesse d'en haut, procédant du Père des Lumières, dont parle saint Jacques lorsqu'il dit « Si quelqu'un d'entre vous a faute de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous bénignement, et ne la reproche point, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement. » C'est donc à bon droit que Moïse nous apprend à faire en Dieu cette prière « Enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur de sagesse. » Il ne faut pas que nous soyons comme les fous qui tirent en l'air sans viser à aucun but, ni comme les bêtes qui ne savent ce qui les fait vivre, ni pourquoi elles vivent. Il est de notre devoir de considérer avec une attention religieuse que Dieu seul est l'auteur de notre vie et que nous ne devons vivre que pour son service et pour sa gloire, car il a tout fait pour soi-même et comme en parle l'apôtre, de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. Vous estimeriez un homme insensé qui irait bâtir des palais superbes sur un grand chemin où il n'aurait qu'à passer. S'il y a en nous une étincelle de prudence et de sagesse, puisque nous n'avons qu'un moment à vivre sur la terre, nous n'y attacherons point notre cœur et n'y enracinerons point nos affections, mais nous posséderons toutes les choses qui y sont, comme ne les possédant point, nous représentant que la figure de ce monde passe, et que tout ce qui est sous le soleil n'est que vanité et rongement d'esprit. Cette vie non seulement est de peu de durée, mais elle est accompagnée de tant de maux que, si nous sommes sages, nous rechercherons de bonheur une meilleure vie et aspirerons avec une sainte ardeur à une immortalité bienheureuse. Et même, il faut que nous nous employions avec zèle à toutes les choses qui nous peuvent acheminer à cette vie permanente et à cet état de gloire où l'on ne compte plus les jours, les mois, les années, ni les siècles, mais où l'on voit régner une éternité toujours semblable à elle-même, toujours glorieuse et toujours triomphante. Comme nous ne devons point nous arrêter à une vie si fragile et de si peu de durée, aussi ne faut-il pas que nos esprits s'arrêtent à des choses caduques et périssables. Il ne faut pas que nos cœurs s'attachent aux richesses de la terre qui prennent des ailes et s'envolent au ciel comme l'aigle, ni aux honneurs de ce siècle qui s'évanouissent comme une ombre ni aux voluptés de cette malheureuse chair qui passe comme un torrent, ou plutôt qui sont comme les fleuves d'eau douce qui se vont rendre à la mer qui est salée. Cette sagesse que nous demandons à Dieu nous apprend surtout à nous abstenir des vices qui mènent en enfer, c'est-à-dire en la mort seconde et en la damnation éternelle, où est le ver qui ne meurt point et le feu qui ne se peut éteindre, et où, après avoir été tourmenté autant de millions de siècles qu'il y a de gouttes d'eau en la mer et de sable sur le rivage, ce ne sera que le commencement des tourments de la géhenne, où il y a pleurs et grincements de dents. Elle nous apprend aussi à nous adonner à la piété et à nous exercer en bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous cheminions en elle. Car la sagesse d'en haut non seulement est pure, paisible, modérée et traitable, mais elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Remarquez, fidèles, que le prophète Moïse ne nous apprend pas seulement à prier Dieu qu'il nous donne la sagesse céleste dont nous avons besoin, mais qu'il veut que nous lui demandions un cœur de sagesse, c'est-à-dire un cœur sage et entendu, et une sagesse qui possède notre âme. C'est de cette sagesse dont parle David au psaume 51. « Tu m'as, dit-il, enseigné la sagesse dans le secret de mon cœur. » Et Salomon, au chapitre 2 des Proverbes, « Tu entendras justice et jugement, et équité, tout le chemin qui tend au bien, si la sagesse vient en ton cœur, et la connaissance est plaisante à ton âme. » Le cœur se prend souvent pour l'âme et pour toutes ses facultés, et par ce moyen, il comprend l'entendement, la volonté et les affections de l'homme. Mais il me semble qu'il ne se doit prendre en cet endroit que pour l'entendement, et que par là, Moïse nous a voulu apprendre que non seulement notre volonté doit être sanctifiée et nos affections purifiées, mais que notre entendement doit être éclairé des lumières du ciel, et même, il se peut dire que Dieu se sert de cette divine lumière qui rayonne et resplendit en nos entendements pour sanctifier nos volontés et pour purifier nos affections. Ce cœur de sagesse ne saurait être trop pesé à la balance du sanctuaire. Cela nous apprend que ce n'est pas assez d'avoir de beaux discours en nos bouches et sur le bord de nos lèvres, mais qu'il faut que notre cœur soit sage et que les lumières du ciel resplendissent au-dedans de nos âmes. Car, telle à une langue disserte et parle éloquemment de la sagesse dont le cœur est tout rempli de folie et d'extravagance, tel discours admirablement de la brièveté de la vie qui croit avoir encore un siècle à vivre, tel se rit des vanités de la terre qui vole après et qui les embrasse de ses affections les plus ardentes, tel fuit le monde en apparence, qui emporte tout le monde avec soi, et qui l'a enraciné dans son âme. C'est en vain que nous parlons avec les sages si nous vivons comme les fous et les insensés. Si nous méditons comme il faut sur la brièveté de la vie et que, d'une affection pure et sainte, nous prions Dieu de nous enseigner à bien compter nos jours, il nous donnera un cœur sage et entendu, et éclairé de ses lumières célestes. Et non seulement il nous donnera un cœur de sagesse, mais aussi un cœur d'amour divin, un cœur qui brûle dans les flammes du zèle à la gloire de Dieu sans s'y consumer, et un cœur de charité qui se perfectionne dans le feu de l'amour du prochain. Cette belle méditation et cette sainte prière est nécessaire en tout temps, mais elle l'est particulièrement en ce jour où nous commençons une nouvelle année qui nous oblige à faire un nouveau calcul des jours et des années de notre vie. C'est à nous à prier Dieu qu'il nous fasse la grâce de les compter de sorte que nous en puissions avoir un cœur de sagesse. L'on raconte une histoire assez mémorable d'un jeune homme qui était pauvre et ignorant, mais très désireux d'apprendre la philosophie qui était alors enseignée par un célèbre philosophe. Voyant que tous ses compagnons faisaient de riches présents à ce philosophe pour être admis dans son école, il s'adressa directement à lui et lui dit « Mon maître, je suis un pauvre garçon et n'ai rien à te donner, mais je me donne moi-même à toi et veux à jamais dépendre de tes volontés. Je te supplie de m'apprendre la science que je cherche et après laquelle je soupire. » On dit que ce philosophe reçut ce présent-là de bonne grâce, qu'il prit plaisir à instruire ce jeune homme et qu'il le rendit savant en la philosophie. Aujourd'hui, mes frères, nous avons à demander à Dieu qu'il nous enseigne non pas une vaine philosophie qui enfle et qui n'édifie point, mais la vraie sagesse qui est toute céleste et toute divine, qui nous conduit à l'éternité de la gloire et de la béatitude, et qui, dès le voyage et durant la brièveté de cette vie, nous en donne les prémices et les avant-goûts. Mais qu'avons-nous à donner à Dieu, qui a fait cette loi, laquelle n'accepte personne ? Nul ne se présentera devant la face de l'Éternel avide. Ô grand Dieu, que te donnerons-nous ? Car tout le monde t'appartient, et quand tout le monde serait en notre pouvoir, il n'est pas digne de ta grandeur ni de ta majesté divine. Seigneur, nous nous donnons nous-mêmes à toi. Aie pitié de nous, et nous reçois en ta grâce. Car aussi, nous venons comme de misérables pécheurs nous jeter entre les bras du Père des miséricordes, comme pauvres et dénués de tout bien. Nous implorons l'assistance du souverain monarque qui a en ses mains toutes les richesses du ciel et de la terre. Comme mourants, nous nous plongeons à la source de vie et d'immortalité, et comme des personnes ignorantes, nous nous adressons à toi, qui as en ton sein tous les trésors de science et d'intelligence. Enseigne-nous donc à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur de sagesse. Avec l'assistance du ciel, nous ferons tous cette prière avant que de sortir de ce temple. Mais, mes frères bien-aimés, qu'il n'en soit pas comme par le passé. Ne la faisons pas seulement de la bouche et des lèvres, mais faisons-la du cœur et des affections les plus ardentes de notre âme. Il y a parmi vous quantité de personnes qui sont sages et prudentes selon le monde, mais il y en a fort peu qui soient sages selon Dieu, parce que ce n'est que la langue et non pas le cœur qui demande à Dieu un cœur de sagesse. Nous parlons quelquefois de la brièveté de notre vie comme si nous n'avions qu'un moment à vivre, mais cependant nous nous préparons aussi peu à la mort que si nous étions immortels. Le pire est que nous vivons comme si nous ne croyons point le paradis ni ses félicités éternelles, et comme si nous ne craignions point l'enfer ni ses tourments infinis. Pour nous rappeler la fragilité de notre vie, et pour nous bien disposer à la mort, nous n'avons pas besoin que nous ayons devant nos yeux un cercueil ou quelques têtes de mort, ou que l'on nous vienne dire à toutes les heures du jour « Souviens-toi que tu es mortel ». Car les infirmités, les douleurs et les maladies auxquelles nous sommes sujets et qui nous attaquent tous les jours nous avertissent assez qu'il nous faut mourir et que peut-être nous avons la mort dans le sein et un pied dans le tombeau. Quand nous ne sentirions en nos corps aucune incommodité, il ne faut pas que nous soyons si fous de croire que nous soyons d'autre nature que tout le reste des hommes. Or, nous voyons mourir tous les jours des personnes de tout âge et de toute condition, et nous pouvons dire avec le roi prophète, « La mortalité chemine en ténèbres et la destruction dévaste en plein midi. » Psaume 91. Quand de toutes parts je jette les yeux sur cette assemblée, à peine puis-je reconnaître 5 ou 6 personnes de ceux qui étaient en âge d'homme mûr lorsque j'ai eu l'honneur d'être appelé au service de cette église. Et quand nous ne parlerions que de ceux qui, l'année dernière, ont été enlevés de la terre des vivants, le nombre en est si grand qu'il y a peu de familles qui ne pleurent son mort. Et qui est donc l'homme vivant qui puisse dire « Je vivrai et je ne verrai point la mort » Car il est ordonné à tous les hommes de mourir une fois. Les rois et les monarques n'en sont pas plus exempts que leurs sujets et leurs esclaves. Et c'est ce que Dieu voulut apprendre à Nebuchadnezzar lorsqu'il mit devant ses yeux une grande statue dont la tête d'or aussi bien que les pieds de terre furent réduites en poudre et emportées par le vent. Mais sans avoir recours aux songes et aux visions, Dieu dit en propres termes aux princes et aux grands de la terre, « J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous enfants du souverain. Toutefois, vous mourrez comme des hommes. » Et vous, les principaux, tomberez comme un autre. » Pour bien graver cette leçon en leur cœur et pour leur apprendre à méditer sérieusement sur leur mortalité, Dieu permet quelquefois à la mort d'enlever leurs enfants dès leur naissance. Témoin soit le fils du roi David, qui mourut le 7e jour de sa vie. Et témoin soit encore cette belle et précieuse fleur de lys, qui n'a pas sitôt paru sur la terre, qui lui est arrivée comme à l'arbrisseau de Jonas, qui n'eut pas sitôt réjoui le prophète par son beau feuillage, qu'il fut frappé d'un ver et se sécha. Je m'assure que vous entendez bien que je parle de la fille de notre grand monarque. Car il a plu à Dieu d'éteindre cette lumière naissante, et il a permis que cette riche fleur ait été presque aussitôt flétrie qu'épanouie, afin d'apprendre au roi et à tous leurs sujets la vérité de cet oracle divin. Toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur des champs. Chrétiens, ouvrez vos yeux et regardez les horribles ravages que fait la mort par toute la terre habitable. Voyez combien elle fauche de têtes couronnées et de nations entières, et que cela vous oblige à lever les yeux au ciel et à dire avec notre prophète « Seigneur, enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur de sagesse. » Lorsque nous arrêtons notre vue sur la terre, nous y remarquons de grandes inégalités. Car il y a des campagnes fort vastes, des vallées fort profondes et des montagnes fort superbes qui vont au-dessus des nues. Et lorsque cette terre avec toutes ses campagnes, ses vallées et ses montagnes est comparée avec le ciel, elle ne paraît que comme un point. Il en est de même de la vie des hommes. Car en vous comparant les uns aux autres, il se trouve une grande différence d'âge. Les uns ne font que de naître, les autres ont longtemps vécu. Il y en a qui comptent jusqu'à 70 et 80 ans, et quelques-uns même vont au-delà. Mais en approchant de Dieu, toute cette différence-là s'évanouit, car la plus longue vie n'est qu'un moment au regard de l'éternité. De sorte que nous sommes tous également obligés de dire à Dieu « Enseigne-nous à tellement compter nos jours » que nous en puissions avoir un cœur de sagesse. Enfant, qui avez le bonheur d'être né de père et de mère fidèles, et qui êtes du nombre de ceux par la bouche desquels Dieu accomplit sa louange, dès que vous pourrez ouvrir vos lèvres, dites à votre Père céleste ce que notre Seigneur lui dit en entrant dans le monde, « Me voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté, et faites-lui la prière de Moïse, enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur de sagesse. Jeunes gens, qui êtes en la fleur de votre âge et qui passez vos plus beaux jours, songez à ce que dit le sage, l'ecclésiaste, que le jeune âge et l'adolescence ne sont que vanité. Jetez les yeux sur les plus beaux arbres et vous verrez qu'il en tombe plus de fleurs et de fruits verts que l'on en cueille de fruits mûrs. Et si vous regardez les cimetières, vous trouverez que l'on y enterre plus de jeunes gens que de vieillards. Souvenez-vous de votre Créateur au jour de votre jeunesse, avant que les jours mauvais viennent et que les ans arrivent desquels vous disiez « Je n'y prends plus de plaisir ». Gravez en vos cœurs cet enseignement divin. En quoi est-ce que le jeune homme adressera sa voix en se conduisant selon ta parole, Seigneur ? Ne vous lassez point de faire la prière de David. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, et que ton bon esprit me conduise. Et de dire avec Moïse, enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur de sagesse. Vous qui êtes en la plus grande vigueur et en la plus grande force de votre vie, pensez à bon escient que cette vigueur et cette force se passent en un moment et que lorsque Dieu frappe sur le fer et sur les reins, il le brise aussi bien que la terre et le réduit en poudre. Employez cette force et cette vigueur à servir Dieu et à combattre le diable et les convoitises de la chair qui font la guerre à votre âme, afin que l'on puisse dire de vous ce que saint Jean disait au jeune homme de son temps. « Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez surmonté le malin. » Vous serez couronnés de cette belle louange et vous remporterez cette glorieuse victoire si de bon cœur vous faites cette prière. Enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur de sagesse. Vieillards, sur la tête desquels il a plu à Dieu de mettre une couronne d'argent, venez rendre vos plus religieux hommages à l'ancien des jours et jetez votre couronne à ses pieds. Que le temps qui a fait blanchir votre poil fasse reverdir votre piété. Que les jours et les années qui ont gravé les rides qui paraissent sur votre front vous apprennent à effacer toutes les taches de votre âme. Que la vieillesse qui courbe votre corps vers la terre élève votre cœur par-dessus tous les cieux, et que la mort qui vous talonne vous fasse embrasser le prince de vie et d'immortalité. Soyez de ces arbres bénis du ciel qui portent des fruits en leur vieillesse et qui conservent une sainte vigueur. Que vous puissiez dire avec David, « Ô Dieu, tu m'as enseigné dès ma jeunesse, et jusqu'ici j'ai annoncé tes merveilles, et encore jusqu'à la vieillesse, et même jusqu'à la vieillesse toute blanche, ô Dieu, ne m'abandonne point. » Que si par le passé vous avez négligé votre devoir, au moins apprenez aujourd'hui à redire avec Moïse, « Enseigne-nous à tellement compter nos jours, que nous en puissions avoir un cœur de sagesse. » Enfin, de quelque âge, de quelque sexe et de quelque condition que vous puissiez être, ayez toujours devant vos yeux la brièveté de votre vie et possédez-la comme ne la possédant point. Représentez-vous sans cesse que Dieu vous a composé de corps et d'âme et qu'il faut que le corps retourne en la poudre où il a été et que l'âme retourne à Dieu qui l'a donné. Puisque cette âme est immortelle, il faut qu'elle aspire à une bienheureuse immortalité et qu'elle ne se passionne point pour des choses qui n'ont pas seulement la dignité d'être mortelles. Et puisqu'elle est d'une nature céleste, il ne faut point qu'elle s'arrête à cette terre où les serpents se traînent et qui doit brûler un jour avec toutes ses œuvres. Dieu ne nous a point donné un corps comme celui des bêtes qui ont un nez penchant vers la terre. Il vous a créé le visage en haut et les yeux tournés vers le ciel afin d'y élever vos affections et vos désirs. Car il faut que votre cœur soit où est votre trésor, votre félicité, votre gloire, là où Jésus-Christ est entré comme avant-coureur pour vous. Âme chrétienne, ne considérez pas seulement la brièveté de votre vie, mais pensez aussi à toutes les misères qui l'accompagnent, et méditez ces admirables paroles de Moïse, que le plus beau de nos jours n'est que fâcherie et tourment, et il s'en va soudain, et nous nous envolons. Il ne dit pas qu'il se rencontre des jours où nous sommes tristes et affligés, mais il dit que tout ce qu'il y a de plus beau et de plus riant en nos jours n'est que fâcherie et tourment. En effet, si vous repassez en vos esprits les jours de votre vie que vous croyez avoir été les plus heureux, vous trouverez qu'il n'y en a pas un que vous puissiez dire un exemple de fâcherie, car où il vous est arrivé quelque déplaisir et quelque amertume qui a détrempé vos douceurs, où son souvenir du passé vous a donné du dépit et du chagrin et vous a fait jeter quelques soupirs, où les pensées de l'avenir ont troublé toutes vos joies. Car même en riant, le cœur est triste, et s'il y a quelque plaisir, il n'est que d'un moment, et il passe comme un songe. Outre que nous sommes sujets à toutes les misères de cette vie, comme le reste des hommes, nous avons nos afflictions particulières comme fidèles, qui avons renoncé aux erreurs et aux superstitions qui règnent dans le monde, et qui faisons profession ouverte de la pureté de l'Évangile, de sorte que si nous n'avions espérance en Jésus-Christ qu'en cette vie seulement, nous serions les plus misérables de toutes les créatures. Bien que cette vie ne soit que d'un moment, elle décide de l'éternité, car Dieu ne glorifie dans le ciel que ceux qui le glorifient sur la terre. Il n'y a personne, s'il n'est complètement athée et sans religion, qui à l'heure de la mort ne voulût avoir bien vécu, et cela même dont la vie a été la plus sainte et la plus réformée, voudrait avoir encore mieux fait. Vivons donc comme nous voudrions avoir vécu lorsque nous serons prêts à rendre nos âmes à Dieu et à comparaître devant son tribunal. Cheminons comme devant la face de ce grand Dieu vivant, qui éclaire toutes nos actions, qui entend tous nos discours et qui lit toutes nos pensées les plus secrètes. Que le zèle de sa maison nous ronge et que la charité de Jésus-Christ nous enflamme. Chrétiens, ayez compassion de vos propres frères qui languissent en cette saison rigoureuse. Soyez libéraux en aumône et faites-vous des amis des richesses iniques, afin que quand vous défaudrez, ils vous reçoivent aux tabernacles éternels. Si Dieu nous donne aujourd'hui un cœur de sagesse et qu'il nous fasse la grâce de posséder un jour en héritage le royaume qu'il a préparé à ses élus avant la fondation du monde, nous reconnaîtrons qu'il y a plus de différence entre notre état présent et celui qui est à venir qu'il y a entre la terre et le ciel. Maintenant, il nous faut apprendre à compter nos jours, mais alors il n'y aura plus de jours à compter, car il n'y aura qu'un jour qui n'aura jamais de soir, et que saint Pierre appelle le jour d'éternité. Maintenant, nous voyons un soleil qui tous les ans achève et recommence sa course, et qui nous cache son visage aussi souvent qu'il nous en découvre la beauté. Mais alors nous serons à jamais éclairés du soleil de justice qui ne se couchera jamais, de sorte que nous reluirons comme autant de petits soleils au royaume de notre Père céleste. La vie que nous respirons ici-bas est la vanité et l'inconstance même, mais celle dont nous jouirons là-haut n'a non plus de variation ni d'ombrage de changement que celui qui en est l'auteur. Cette vie est laborieuse et pénible, car comme les étincelles se lèvent pour voler, il semble que nous ne naissions que pour le travail et pour la peine. Mais en la vie qui est à venir, nous posséderons un repos sans trouble et une félicité sans interruption. En ce siècle misérable, nous sommes sujets à la faim et à la soif. Les chaleurs de l'été nous brûlent et nous consument, et le froid de l'hiver nous gèle et nous transit. Mais dans l'éternité de gloire, nous n'aurons plus de faim et n'aurons plus de soif. L'on ne donnera plus et l'on ne prendra plus en mariage, mais nous serons comme les anges du ciel. Et comme alors il n'y aura plus de temps, aussi ne pourrons-nous pas être exposés à la rigueur des saisons ni aux injures de l'air. Durant notre séjour au monde, nos occupations les plus ordinaires sont importunes et semblables à celles des écureuils qui tournent toujours dans une même cage, car nous recommençons tous les jours à nous lever, à nous coucher, à nous vêtir et à nous déshabiller, à manger et à boire. Mais lorsque nous serons sortis hors du monde, toute notre occupation sera à contempler la face de Dieu, en laquelle il y a un rassasiement de joie, et à célébrer ses louanges divines avec tous les esprits triomphants. Tandis que notre âme loge dans ce pauvre corps, elle est rongée de soucis et de chagrins, combattue par les convoitises de la chair, et souillée par le péché. Mais lorsqu'elle sera avec le Seigneur, elle n'aura plus de soucis, ni de chagrins, ni de combats. Elle sera sans souillure et sans tache, et elle se verra toute rayonnante de lumière et de gloire. Notre corps, depuis sa naissance jusqu'à son tombeau, est sujet aux maladies, aux douleurs, à la corruption et à la mort. Mais par la résurrection que nous attendons, il sera rendu impassible. Ce corruptible revêtira l'incorruption, et tout ce qui est mortel sera englouti par la vie. De nos yeux mêmes, nous verrons notre Sauveur avec les anges de sa puissance. Et qui plus est, il transformera notre corps vil et le rendra conforme à son corps glorieux. Enfin, nous espérons de jouir, et en nos âmes et en nos corps, d'une gloire et d'une félicité souveraine que l'œil n'a jamais vue, que l'oreille n'a point entendue et qui n'est point montée au cœur de l'homme. Cependant, puisque Dieu nous a fait pour la gloire, tandis qu'il voudra prolonger nos jours sur cette terre misérable et hérissée d'épines, ne perdons point courage et ne nous lassons point de servir un si bon maître et un Seigneur si libéral et si magnifique. Disons-lui plutôt avec David, « Que mon âme vive, afin qu'elle te loue. » Mais aussi, quand il lui plaira de nous retirer de cette vallée de misère et de larmes, et de nous élever en son paradis céleste, il faut que nous soyons tous disposés à le suivre avec une sainte allégresse. Âmes chrétiennes et dévotes, qui avez embrassé le Sauveur du monde, et qui, des yeux de la foi, avez contemplé ce grand salut qu'il nous a acquis par son sang, et qui vous fut hier scellé au sacrement de la Sainte Cène, je m'assure que vos cœurs tressaillent de joie, et qu'à toute heure que Dieu voudra, vous serez tout prêts à dire « Nous voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. Seigneur, laisse aller en paix tes serviteurs et tes servantes, car nos yeux ont vu ton salut. » Amen.